Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 24 mars 2022, en direct des studios de Choc à l'UQAM, en pleine grève étudiante cette semaine, mesdames et messieurs. Mais nous avons eu accès au studio, nous n'avons pas eu à briser un piquet de grève quand même, on n'aurait pas fait ça. Donc, bienvenue à l'émission. C'est Mathieu qui vous parle, je suis en compagnie de Marie-Ève.
Salut Mathieu.
Salut, salut. Simon est avec nous aussi. Bonjour Simon.
Salut, allô.
Donc, une émission bien chargé aujourd'hui, toujours sur les enjeux d'immigration, racisme, sécurité nationale, frontières et plus, même droits humains de plus en plus, entre autres. Donc, on va vous parler aujourd'hui de l'Ukraine, mais des points spécifiques. On parlera pas là, on fera pas un journal de guerre quotidien.
Non, monsieur.
Non, madame. On va parler des élections en Hongrie qui s'en viennent avec notre ami Victor Orban. On va parler aussi police, racisme, etc. Un peu la suite d'il y a deux semaines que Simon va nous faire. Les actualités françaises aussi, les actualités latino américaine et quelques petites nouvelles par-ci par-là et de la très bonne musique en plus de quelques dates d'agenda. Donc voilà pour le programme. Donc nous sommes sur la page du site de Choc, notre page d'émission pour écouter les anciennes émissions ou les émissions à venir et aussi notre site internet apatridesanonymes.info. Donc pour notre site. Donc on va y aller avec quelques notes de musique. Et ensuite, je vous parle dans ma série des autocrates hallucinés. Premier épisode officiel de la mini-série Les Autocrates Hallucinés, mais on en a parlé quelques fois, dont Simon, entre autres, en Afrique. C'est arrivé à quelques reprises. Donc, les Turkmènes, Marie-Ève, se sont rendus aux urnes le 11 mars pour une élection présidentielle jouée d'avance, qui permet au fils de l'actuel dirigeant de prendre les rênes de ce pays, l'un des plus reclus et autoritaires du monde. La succession entre Gurbanguly, Berdimuk Kadmedov, 64 ans, et son fils Serdar, 40 ans, qui a connu une ascension météorique, marquera le premier changement d'envergure en plus de 15 ans au Turkménistan. Faut vraiment le prononcer. Sur 9 candidats en lice, Serdar a obtenu 73% et il a promis de poursuivre la politique de son père fantasque.
Ben, au moins, il y avait d'autres candidats, là.
Oui, tout à fait. C'était un peu des potiches, mais il y avait d'autres candidats. Le père, connu pour ses mises en scène à vélo, à cheval ou à la salle de sport, jouit dans ce pays d'Asie centrale d'un culte de la personnalité. Surtout connu à l'étranger pour ses apparitions improbables à la télévision, comme celle où il compose du rap patriotique avec son petit-fils.
Ça doit être bon!
Je l'ai pas trouvé la tonne. Il a brusquement annoncé le mois dernier son retrait au profit de la jeune génération. La télévision d'État de cette ex-république soviétique riche en hydrocarbures a assuré que le scrutin montrait l'irréversibilité du processus de démocratisation de la société turkmène moderne. Les autorités ont revendiqué plus de 97% de participation.
Ben oui.
Le fils a connu une ascension rapide. Il a notamment été vice-ministre des Affaires étrangères et gouverneur régional avant de devenir l'an dernier vice-président du cabinet ministériel et membre du puissant Conseil de sécurité. Il reste néanmoins peu connu, sa biographie officielle mentionnant seulement qu'il est le plus expérimenté des candidats, bien qu'il soit le plus jeune sur les 9.
Grosse biographie. Ouais,
c'est sûr, si on nomme à tous les postes, il va finir par être expérimenté.
En même temps, évidemment, c'est ça. Donc, le père a confirmé qu'il restera en politique en tant que président du Sénat, soit la deuxième figure de l'État. Ah, donc, voilà pour le Turkménistan. Et une petite référence, le documentaire La diplomatie du caviar, qui parle de l'Azerbaïdjan,
oui,
qui parle du Kazakhstan, qui est vraiment intéressant. Ça se trouve un peu partout. La diplomatie du caviar, ça parle des dictatures d'Asie centrale là, qui
plénipotentiaires.
Oui, les derniers cultes officiels de la personnalité. Et rapidement, ben un autre halluciné tyran autocrate. L'Arabie Saoudite a exécuté le 12 mars dernier 81 personnes reconnues coupables de crimes allant du meurtre à l'appartenance à des groupes militants. Il s'agit de la plus grande exécution de masse connue de l'histoire moderne du royaume des Saouds. Certaines des personnes exécutées étaient des membres d'Al-Qaïda, du groupe État islamique, ainsi que des partisans des rebelles houthis du Yémen et d'autres criminels dits de droit commun. Une annonce de la télévision d'État saoudienne a décrit les personnes exécutées comme ayant suivi les traces de Satan dans la perpétration de leurs crimes. C'est basé sur le Coran, évidemment, pour la peine de mort en Arabie Saoudite. Un groupe de défense a dit « Le monde devrait savoir maintenant que lorsque Mohamed Ben Salman, le prince héritier, promet des réformes, des effusions de sang suivront. » La dernière exécution massive du royaume a eu lieu en janvier 2016 lorsqu'on a exécuté 47 personnes, dont un important religieux chiite de l'opposition qui avait organisé des manifestations contre le régime. C'est souvent des chiites qui se font d'ailleurs exécuter en Arabie Saoudite. Donc voilà, c'est le délire. Donc d'un côté des élections truquées, de l'autre côté des exécutions de masse record. Donc on parle pas de l'Ukraine, on parle d'autres choses, mais c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, Marie-Ève.
Non, ben moi non plus.
C'est ça, je te passe le micro pour parler. On change de continent, mais l'Amérique latine, mais... Ouais, OK, vas-y.
Ben, tu vas voir, je vais aussi parler des d'élections et de répression. Je commence d'ailleurs par Cuba, où la Cour suprême a condamné 128 Cubains à des peines de 6 à 30 ans de prison. Bon, on n'est pas, c'est pas la peine de mort, mais quand même 30 ans de prison pour avoir, je cite... commis et provoqué des troubles graves et des actes de vandalisme. Ça, c'était lors des manifestations qui ont eu lieu les 11 et 12 juillet 2021, l'été passé, que, un peu partout au pays, là, que ça a été des mobilisations dites historiques. Donc, au terme de ce procès-là, qui s'est déroulé entre le 14 décembre et le 3 février, les 128 personnes ont donc été reconnues coupables de sédition et de vol. Le gouvernement avait déjà annoncé le 25 janvier que 790 personnes, dont 55 mineurs, avaient été inculpées pour les manifestations de juillet. Puis, à cette même date-là, 172 autres personnes avaient déjà été condamnées aussi. Fait que ça commence à faire beaucoup. 790 plus 172 plus 128, c'est quelque chose. Et donc, ben la justice, comme la justice est pas à l'abri du deux poids deux mesures, à peu près au même moment, mais au Pérou cette fois-ci, la Cour constitutionnelle a ordonné à la libération de l'ancien président Alberto Fujimori, un autre
de nos meilleurs, hein?
Un autre halluciné,
ouais.
Qui était au pouvoir de 90 à 2000, donc qui avait été condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. C'est donc dit que la grâce qui lui avait été accordé là, la veille de Noël 2017 par le président de l'époque, Pedro Pablo Kuczynski, pour des raisons humanitaires et rétablies. Pardon, petit chat dans la gorge. En octobre 2018, la justice avait annulé cette grâce-là et donc renvoyé Fujimori en prison. Il était retourné depuis 2019.
Il a fait
depuis
un 3-4 ans, tout à peu près. Là,
c'est
j'imagine.
Ça. Ouais. Donc, il avait dit « Retourner en prison est une condamnation à mort lente et certaine ». C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Monsieur Fujimori, qui est aujourd'hui âgé de 83 ans et qui souffre de plusieurs problèmes de santé. Je précise pas ça pour susciter votre sympathie.
Non, tu l'auras pas.
Non, mais pour expliquer que c'est précisément sur ce point-là que la décision des juges a été très serrée. Trois juges ont voté en faveur de sa libération et trois contre, mais c'est la voix du président de la Cour constitutionnelle qui a fait la différence parce que elle est prépondérante lorsqu'il y a égalité. On se tourne maintenant en Colombie, vers la Colombie, où il y a eu des élections législatives le 13 mars pour renouveler les deux chambres du Parlement, mais il y a eu aussi des primaires pour désigner les candidats à la présidentielle prévue le 29 mai prochain. Mm-hmm. J'avais déjà mentionné son nom lors de l'entrevue de notre camarade du PASC, Nathan Brouleman, sur la détérioration de la situation en Colombie. Je parle, bien sûr, du sénateur Gustavo Petro, qui avait alors la faveur des sondages. Eh bien, sa popularité s'est confirmée puisqu'il a remporté l'investiture de la coalition de gauche nommée Pacte historique avec un score écrasant de 80% des voix. Donc, l'ex-guerriero reconverti au, j'ouvre les guillemets, progressisme social-démocrate, va affronter le 29 mai l'ancien maire de Medellín, Federico Gutiérrez, qui va représenter la coalition de centre-droit qui se nomme Équipe pour Colombie, et l'ex-gouverneur du puissant département d'Antioquia, Sergio Fajardo, pour la coalition de centre-gauche qui se nomme Centre-Espérance. Ils ont des noms vraiment merveilleux. Mm-hmm. Mais il y a aussi d'autres candidats qui étaient déjà en course pour la présidentielle, mais qui se sont pas présentés aux primaires, puis qui vont se présenter pour leur propre parti, donc pas pour une coalition.
Ouais, okay, vas-y.
Il y a entre autres Oscar Zuluaga pour le parti au pouvoir de l'actuel président Duque, qui qui, heureusement, ne décolle pas dans les intentions de vote. Il y a aussi l'indépendant Rodolfo Hernandez et l'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt.
Encore elle, oui.
Ben oui, elle est encore là. Il y a donc, il y a une réelle chance quand même que la gauche remporte les élections, puisque près de 48% des personnes qui ont voté aux primaires ont choisi le pacte historique, ce qui est quand même une grosse proportion, plutôt que les deux autres coalitions. Puis si ça arrive, ben là, c'est vraiment un séisme politique en Colombie, puisque le pays est historiquement gouverné par la droite. C'est donc dire que la campagne électorale est officiellement lancée là, pour de vrai, et que là, on s'attend à ce que la campagne tourne autour de thèmes là assez traditionnels, genre économie, pauvreté, pandémie, évidemment les violences armées, à la fois dans les provinces, mais aussi les violences urbaines. Et je termine mon tour d'horizon au Brésil, où un autre infâme, cette fois Bolsonaro.
J'aime
Bolsonaro. A l'odieux de se servir de la guerre en Ukraine, c'est pas le premier, mais bon, pour faire avancer son projet de loi qui autorise l'activité minière sur des terres censées être réservées aux activités traditionnelles autochtones. Les alliés du président Bolsonaro tentent en effet de faire adopter à la Chambre des députés un régime d'urgence pour l'examen d'un projet de loi qui permettrait d'explorer des réserves de potassium utilisées dans de nombreux engrais et donc de garantir les engrais suffisants pour l'agriculture dont le Brésil est un géant. Il faut savoir que le Brésil importe plus que 80% de ses engrais. Puis pour ce qui est du potassium, la proportion est encore plus écrasante, c'est 96%. Et la Russie, qui est le principal fournisseur du Brésil, représente 20% des engrais qui sont importés par le pays.
Ouais.
Il y a aussi un autre projet de loi qui est controversé, qui vient comme en paquet, un peu comme une loi omnibus, qui porte sur le cadre temporel qui accordait là, des droits aux Autochtones seulement sur les... qui accorderait des droits, c'est ça, aux Autochtones seulement sur les terres qu'ils occupaient l'année de la promulgation de la Constitution en
1988.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un net recul. Évidemment, ben là, pour les opposants, dont le député Rodrigo Agostino du Front parlementaire écologiste, l'argument des bolsonaristes d'une éventuelle pénurie d'engrais venue de Russie est seulement un prétexte. Selon lui, je cite, « Ce projet vise en fait à autoriser des mines qui sont illégales aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les engrais. » La plupart du potassium du Brésil se trouve dans d'autres États, pas en Amazonie et en dehors des réserves autochtones.
Dans l'urgence, c'est les élections. Est-ce que je te scoop?
Non.
Non, OK, c'est bon.
Le vote là-dessus va avoir... ben, c'est sûr que c'est clair que c'est un move électoraliste,
ben oui,
évidemment.
Bientôt, là.
Mais
ouais,
puis le vote sur ce paquet-là va avoir... ce paquet législatif-là va avoir... c'est parce que c'est le même qu'il nomme dans les articles que je lisais.
Un petit paquet.
C'est un paquet avec des grosses répercussions. Le vote, donc, devrait se tenir en avril. Donc, là, l'opposition s'organise. Il y a une manifestation majeure qui a eu lieu devant le Parlement le 9 mars à l'appel du chanteur brésilien Caetano Veloso, qui est une icône du mouvement tropicaliste connu pour ses chansons engagées durant les années de plomb du régime militaire.
Ouais.
Lors d'une audience au Sénat, juste avant la manifestation, Veloso a déclaré, je cite, et je vais terminer là-dessus, « C'est une mobilisation inédite. Le Brésil vit son moment le plus grave pour ce qui est de l'environnement. La déforestation est hors de contrôle. La violence contre les Autochtones ne cesse d'augmenter et notre crédibilité internationale est au plus bas. »
Caetano Veloso. Ben oui, on en a parlé du Brésil beaucoup dans les derniers mois et on va en parler parce qu'il y a des élections à l'automne.
En plus, ben c'est ça, il y a des élections partout. Là, il va avoir, c'est ça.
Oui, on va en parler tantôt de la Hongrie, entre autres. Donc, voilà, merci beaucoup Marie-Ève. On continue avec quelques notes de musique et je vous parle après du procès d'un néo-nazi à Montréal qui se passe actuellement. Donc, Donc, Gabriel Soyer-Chaput, aussi connu sous le nom de Zaiger, est accusé d'avoir fomenté volontairement la haine contre un groupe identifiable, ça c'est le chef d'accusation, en écrivant un article publié sur le portail néo-nazi américain de Daily Stormer, qui est assez connu et assez ancien. Le texte traite d'affiches antisémites qui ont été placardées sur une église de Colombie-Britannique en janvier 2017 et s'attaque à la communauté juive ainsi qu'aux ressortissants asiatiques. Un petit extrait de l'article, en traduction libre. 2017 sera une année d'action. On doit s'assurer qu'aucun guerrier de la justice sociale ou juif actif ne soit à l'abri d'être provoqué. Le nazisme continue jusqu'à ce que les rues soient inondées des larmes de nos ennemis. Ça, c'est... Hein,
c'est charmant.
C'est charmant. Le consultant en informatique de 35 ans a été démasqué grâce au travail conjoint du journal de Gazette et des militants de Montréal antifascistes en 2018. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, justement en 2018, à la suite d'une plainte déposée par le Bennett Brit, qu'on connaît bien au Canada. Le témoignage de l'accusé a donné lieu à une analyse littéraire du texte. Était-il conscient que l'article puisse susciter de vives réactions chez des membres de la communauté juive? Il a répondu « J'en étais conscient, mais ce serait une mauvaise interprétation de l'article. Si à chaque fois que j'écris une phrase, il fallait que je m'arrête à toutes les interprétations possibles, ce serait ridicule. » Pour Chaput,
Il parlait pas du sang des Juifs qu'on va verser dans les rues, genre?
Non.
C'est une image, ça, sinon,
mais attendez la suite, vous allez voir, c'est son témoignage. Pour Chaput, le Daily Stormer est une publication humoristique qui a pour mission de désarmer la gauche. C'est du nazisme ironique. S'il n'y avait pas d'ambiguïté, ça ne fonctionnerait pas. Personne n'en parlerait, ça ne choquerait personne. Ça, c'est sa ligne.
Du nazisme ironique, ça, c'est vraiment, là, c'est très bon.
Pour l'accusé, les références aux nazistes dans ses écrits ne sont que des hyper Les nazis, des gens qui veulent l'extermination des Juifs, c'est une création d'Hollywood, a-t-il témoigné.
Mais oui, c'est vrai, on voit juste ça dans les films.
Tu vois, Marie-Ève, elle a compris le deuxième degré.
Ben oui, ben, arrêtez de me scooper, là. Selon un analyste, l'ironie est une échappatoire pratique pour pouvoir nier des propos de manière plausible.
Ben oui.
Si un lecteur le prend trop sérieux, c'est lui qui est ridicule. L'aspect ludique permet aussi de recruter chez les jeunes. L'humour subversif est très attractif, l'humour noir. C'est aussi une façon de normaliser un discours haineux pour désensibiliser la population.
Ben oui.
L'avocate qui représente le néo-nazi admet que la publication d'un article à caractère antisémite est certes de mauvais goût, mais qu'elle ne peut pas mener une personne à la détestation et à la haine des Juifs. Et là, elle se base sur un jugement de la Cour suprême. Je la cite, « Après avoir lu ça, une personne objective ne va pas moins aimer les Juifs et les discriminer. » On doit quand même rappeler que le texte est notamment illustré par une photo d'un Juif et d'une chambre à gaz. Le procès devait se terminer il y a 2 semaines avec la plaidoirie de la Couronne, mais c'est reporté au 8 juillet. Fait que pour l'instant, c'est en suspens. La peine maximale est de 2 ans pour avoir fomenté la haine contre un groupe identifiable. Mais ça doit être un pas pire spectacle à la procès-là, là, à entendre ce genre de truc-là. Ben, un spectacle triste, là.
Et, oui, c'est ça, parce que je riais, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
Non, c'est sûr. Donc, ben voilà, pour cette petite mise à jour, on vous donnera la suite en juillet prochain, quand il y aura le jugement et la sentence.
Un triste personnage.
Il a plaidé non coupable, évidemment, j'ai pas eu besoin de vous le préciser. Ben oui.
Je pense que c'est un des gros bonnets de ce blog-là, là, un des plus importants.
Oh, il a écrit, je pense, 500 articles en 3 ans, là, pour le Daily Stormer. Il était à Charlottetown dans les manifs suprémacistes aussi, tout ça, c'est là qu'il avait été reconnu. Donc, on va aller en musique avec un groupe français qui s'appelle Chafouin. La pièce s'appelle Pas trop vite. L'album, c'est Tout fout le camp, sorti en septembre 2021. C'est un groupe d'indie, mais instrumental, un peu punk aussi,
oui,
de Brest en France. Leur étiquette de disque s'appelle Épicerie Cords. Donc, Épicerie Cords, c'est vraiment drôle quand on le dit. Je le répéterai tantôt. C'est une étiquette indie punk française indépendante, évidemment. Et la vidéo, c'est juste des images d'entartage en France, entre autres. C'est vraiment sympathique. Donc, Chafouin, Pas trop vite, on l'a dédié à ceux qui nous écoutent. toujours aux apatrides anonymes. Mais quand je disais dédié à notre public, pas trop vite, c'est pas dans le sens qu'ils sont pas vite, là, dans le sens que vous êtes pas vite, là, dans le sens que vous prenez votre temps, vous écoutez une émission de fond, on parle de choses sérieuses et on espère intéressantes, hein, Simon?
Ben, on espère, c'est ça l'objectif.
C'est ça l'objectif.
On veut pas être plate.
On est aussi diffusé sur Radio Victoria FM sur l'île de Vancouver aussi depuis quelques semaines. Alors, on vient juste d'entendre, je le rappelle, Chafouin, pas trop vite, un gros français d'Indy. Donc, Simon, je te laisse la parole sur la France.
Oui, j'aurais pas tant d'illuminé que ça. Je pense que après ce que tu as raconté sur Bolsonaro, sur Fujimori, tout ça, ça sera quand
Marie-Ève, oui, puis le prince héritier d'Arabie Saoudite.
Ouais, bon, ça va en France pour les candidats à la présidentielle. Donc, il pourrait en avoir deux, trois des illuminés, mais pas cette fois-ci. Donc, premier tour le 10 avril, deuxième tour le 24 avril. Donc, on a 12 beaux candidats en tout, attirés par les marbres de l'Élysée. Et j'avoue qu'après avoir vu les saveurs du palais, je me présenterais bien, moi aussi.
Bon,
petite touche d'humour. Il y a Infomigrant qui a recensé les positions des candidats dits de gauche sur les questions d'immigration. D'abord, je voulais nommer les candidats considérés comme de gauche par Infomigrant, donc Jean-Luc Mélenchon de France Insoumise, Fabien Roussel du Parti communiste, Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, Yannick Jadot des Verts, Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste et Anne Hidalgo, actuelle mairesse, pardon, la maire de Paris pour le Parti socialiste, donc une gauche un peu élastique. Premier enjeu, les régularisations de masse. Il y a quelques nuances entre les différentes positions. Par exemple, pour Anne Hidalgo, on régulariserait tout le monde qui a un logement et un travail légal. Mais pour d'autres, comme Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière et l'anticapitaliste Philippe Poutou, on donne un statut à tout le monde présent sur le territoire, point.
Ouais.
Yannick Jadot des Verts, lui, parle d'élargir l'accès au regroupement familial, même pour les familles des mineurs isolés, qui pourraient plus facilement faire venir leurs proches, ce qui, du coup, enlèverait une charge sociale à l'État. À propos de Frontex, la super agence frontalière européenne, il y en a deux qui ont des positions très similaires, c'est Mélenchon de la France insoumise et Jadot des Verts qui proposent de changer carrément la mission de Frontex, de passer d'une agence quasi militaire, je pense qu'on peut dire ça, à une agence de sauvetage dont la mission première serait de secourir les personnes migrantes en danger, surtout en mer. Un changement de culture radical pour Frontex et il faudrait que les autres membres de l'Union européenne donnent leur accord, ce qui est impossible selon moi, surtout qu'on vient un peu de redéfinir Frontex avec des nouveaux budgets, des nouveaux équipements très, très militaires.
Oui.
Il y a plein de pays qui font tout à l'heure actuelle depuis quelques années pour nuire aux ONG de sauvetage en Méditerranée. Donc, c'est un peu utopique selon moi, mais c'est peut-être bien quand même de l'exprimer. Frontex a déjà l'obligation légale de porter assistance à toute personne en danger, mais on constate souvent des pratiques de la part de Frontex qui mettent la vie des gens en danger.
Ouais, puis envoyer un avion, c'est pas comme ça que tu vas sauver des gens qui sont en train de couler, hein?
Non, mais si on redéfinit la mission de Frontex, j'imagine qu'on équipe aussi en conséquence.
C'est
mais,
ça.
Mais c'est des changements très profonds.
Exactement.
Qui vont pas dans le sens des dernières orientations qui ont été choisies par les, je sais pas combien d'États membres en Union européenne.
26 actuellement.
26, mon Dieu. Ouais. Pas lourd, merci. les autres candidats, ils vont de principes plus généraux sur les dangers des migrations par la mer. Donc, ils disent qu'il faut que ça cesse, les morts en Méditerranée, évidemment. Et dans la Manche aussi, on l'oublie.
Ouais.
Mais ils se commettent pas plus davantage que ça sur la mission de Frontex. Il y a Mélenchon qui dit quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire que la nouvelle mission de Frontex devrait aussi être de faciliter le transport maritime des personnes migrantes vers l'Angleterre, sans préciser vraiment comment, donc peut-être avec des navettes. Je pense pas que le Royaume-Uni est tout à fait en phase avec
qui
ça.
Qui n'est plus dans l'Union européenne d'ailleurs, oui.
Non, mais il y a encore les accords du Touquet entre la France et qui datent de 2003, je pense, qui ont été renégociés il y a pas longtemps. D'après moi, si on touche pas à ça, c'est une boîte de Pandore.
C'est bon.
Pour ce qui est des personnes migrantes mineures non accompagnées, les mineurs isolés, donc à peu près tout le monde veut abolir les tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes, ce genre de radiographie de la main qu'on compare à des modèles, pratiques moralement et scientifiquement très douteuses, et qui permet surtout d'étirer les procédures jusqu'à ce que les mineurs soient devenus majeurs. Faut dire que les recours aux tests osseux, c'est à la discrétion de chaque département français. Donc, il y a plein de cas de jeunes déclarés majeurs dans un département et ensuite mineurs dans un autre.
Ah, c'est fantastique.
Ouais, c'est n'importe quoi. Les Verts, M. Jadot, et les communistes, M. Roussel, et les Insoumis, Mélenchon, s'entendent là-dessus et ont d'autres éléments communs dans leur programme sur la détention des mineurs
qu'il faudrait interdire complètement. Et les centres actuels de rétention, les remplacer par des structures non carcérales qui seraient gérées par l'aide sociale à l'enfance et non plus actuellement par les gendarmeries, je crois. Mélenchon va un peu plus loin. Il impliquerait l'OIM et le HCR avec l'État français pour mettre sur pied un nouveau modèle de structure d'accueil qui serait plus fidèle aux normes internationales et dans le respect des conventions des droits d'enfant, du droit de l'enfance, etc. Quelques éléments en vrac, est-ce qu'il me reste une minute?
Oui, il reste une minute.
Anne Hidalgo parle beaucoup de travail. Elle permettrait, elle donnerait un permis de travail dès l'entrée sur le territoire. Actuellement, c'est possible seulement après 6 mois, mais moyennant des démarches assez compliquées. Sinon, elle parle aussi de financer davantage la francisation. Donc, elle pourrait se présenter pour la CAQ. Et elle souhaiterait redéfinir toute la politique actuelle d'intégration, donc probablement un genre de grand forum de consultation. Jadot des Verts, lui, veut créer un grand ministère des solidarités pour, dit-il, sortir les politiques migratoires de l'optique sécuritaire, mais c'est pas très détaillé comme engagement. Pour ce qui est des accords de Dublin, il y a Mélenchon, Hidalgo et Jadot qui veulent des renégociations sur l'accueil, la redistribution entre les pays, qui seraient plus basées sur les capacités d'accueil pour enlever un peu de la pression sur le premier pays où une personne migrante pose le pied, qui est souvent, ben, on le sait, Grèce, Italie, Espagne, Chypre aussi parfois. Là, je suis désolé, j'ai parlé plus de certains candidats par rapport à d'autres. Il y en a avec des plateformes super détaillées, d'autres beaucoup moins, mais si je veux faire une synthèse très général, je dirais que les candidats qui ont l'air de se préoccuper le plus de la libre circulation et de la dignité des personnes, ce seraient les communistes de Fabien Roussel, les Verts de Yannick Jadot, mais surtout France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, Mélenchon a dans son placard quelques comportements et propos douteux. C'est un monsieur qui n'a aucun filtre. Il est dans la vie publique depuis 45 ans. C'est une grande gueule. Donc, il a quand même accumulé pas mal de perles, même des insultes racistes là, qui ont à son actif. Oh, oui, mais la plateforme demeure quand même assez intéressante. Anne Hidalgo parle beaucoup des questions migratoires dans la plateforme du Parti socialiste, mais l'accent est un peu plus mis sur les aspects économiques qu'humanitaires, selon ma perception. Là, ben, il y a la crise ukrainienne qui vient probablement bousculer tout ce que je viens de dire. Chez les candidats, on se drape dans un accueil très généreux, mais du côté des associations, entre autres à Calais, on se désole un peu de la différence de traitement entre les réfugiés ukrainiens et les autres, par exemple sur l'accès au logement temporaire et aux ressources de base. Et du côté de la droite, on entend déjà des énormités, dont notre cher Zemmour, qui a affirmé cette semaine que le tiers des réfugiés ukrainiens ne sont pas ukrainiens. Dans son univers parallèle, il a décidé ça. Donc, prochaine fois, justement, peut-être les position de ces candidats de droite en partant de Macron jusqu'à l'ultra-droite, comme on dit en France.
Écoute, c'est une mission qu'on te donne, Simon, pour une prochaine émission.
Parfait, le défi est accepté.
Merci beaucoup, Simon. Donc, on va tranquillement revenir au Québec, au Canada. Pour introduire justement Simon qui va reprendre son souffle et qui dans quelques secondes, dans quelques minutes va reparler. Merci du respire dans le micro. Donc je vais vous parler une petite nouvelle. Vous allez voir, ça va introduire notre bloc police, racisme, etc., discrimination et voilà. Donc des caméras racistes, oui mesdames et messieurs, à Montréal. Donc dans la lutte à la violence par arme à feu, l'ajout d'une vingtaine de nouvelles caméras de surveillance par le SPVM soulève bien des questions. Des intervenants du nord-est de l'île de Montréal croient que ces nouveaux dispositifs de surveillance sont une atteinte aux communautés noires et ne règlent en aucun cas de problème. Selon Pierre Son Vaval, directeur de l'organisme Jeunesse Équipe Rivière-des-Prairies, ces caméras sont un symbole de racisme systémique. Au lieu d'aider et de jouer un rôle de prévention, le SPVM surveille. Le profilage racial et social est une problématique systémique, à Montréal, qui perdure depuis plusieurs dizaines d'années. La solution contre la violence armée ne doit pas passer par plus de profilage et de surveillance des populations, déclare la Ligue des droits et libertés par l'entremise de Linda Kellil. Selon M. Vaval, ces nouveaux moyens de surveillance sont une manière de rendre observable par la majeure partie de la population que des mesures sont prises pour protéger les citoyens et qu'il se passe quelque chose. Il se passe pas grand-chose, on met des caméras. Cela met plus de pression sur ces communautés qui se sentent déjà pointées du doigt. Nous sommes tannés de cette répression, rajoute-t-il. Leur installation massive soulève un problème social et un gros manque d'investissement financier et humain dans la vie de ces jeunes de quartier, conclut-il, donc l'intervenant social. Donc c'est une petite nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines, mais qui montre un peu la logique. On avait eu au centre-ville de Montréal il y a plusieurs années des caméras qui ont été plus ou moins enlevées, avaient été contestées. Là, dans ces quartiers-là, on entend moins parler. Et c'est franchement assez ridicule comme réponse posément à la violence armée dans ces quartiers-là, à la criminalité, entre guillemets. On met des caméras pour filmer les jeunes et les passants et les habitants de ces quartiers un peu défavorisés et surtout racisés en général.
Ben oui, on veut des centres culturels, des piscines, des équipements publics, là.
Comme il disait, du financement humain et social qui a du bon sens pour les jeunes et la population. Donc, quelques notes de musique et ensuite, Simon, je te repasse le micro. Donc, on continue dans les mêmes enjeux. On est beaucoup au Québec, au Canada, mais à Montréal aussi. Donc, Simon, je te repasse la parole.
Ben, enjeu police, racisme. Donc, on va rester local, mais si je peux me permettre une citation de Zemmour, parce que ça parle de profilage racial. Les Français issus de l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est un fait.
Ah, ça, c'est une vieille citation, ça.
Ah,
il avait été condamné pour ça, d'ailleurs, il y a quelques années.
C'est celle-là, mise en cause.
Mais il l'a redit cette semaine, t'as raison.
Ah, il veut se faire repoursuivre.
La liberté d'expression.
Bon, on s'en va dans la capitale canadienne du profilage racial, Repentigny.
Oui.
Son service de police sera doté de voitures électriques, et ça dans le but avoué de redorer l'image de sa police. Donc, de la super technologie, des nouveaux designs futuristes pour des voitures fabriquées au Québec. Mais c'est ça qui est drôle, les porte-parole de la ville avouent bien candidement, ouvertement, que c'est bel et bien une opération marketing suite aux nombreuses bavures qui ont attaché le service de police de Repens, dont la mort d'un résident noir en août 2021, Jean-René Junior Olivier. Mm-hmm. Je cite Stéphanie Fortier de la ville. Les études ont démontré que la perception de la police peut être améliorée en changeant son identité visuelle. Hein, c'est radical.
Oui, c'est clair.
Autre service de police qui a des relations un peu tendues avec les communautés culturelles et la communauté noire, plusieurs interventions violentes récemment, le SPVQ à Québec. Eh bien, savez-vous combien il y a de policiers noirs dans le SPVQ parmi ces 700 à 800 agents?
Vas-y, Simon, je connais la réponse.
Marie-Ève, les deux, vous aviez tout bon, effectivement,
zéro.
C'est zéro.
Ouais.
7% de la population de Québec se définit comme minorité visible, 2,5% comme des personnes noires. Donc, pour être représentatif, il faudrait avoir une vingtaine de policiers noirs, ce qui n'est pas tant que ça. Je cite Robert Pigeon, il y a beaucoup de citations aujourd'hui.
Ouais.
En 2020, donc, Robert Pigeon, précédent directeur du SPVQ, on n'est pas encore à l'étape de fixer des cibles, mais on aimerait bien recruter notre premier policier noir. J'adore la candeur. Je pense qu'il était allé à la même école de relations publiques que la madame de Repentigny. Ce qui était l'intérim de M. Pigeon, SPVQ, nous apporte un peu d'espoir. Je le cite lui aussi. Si la tendance se maintient à l'école de police, il y aura entre 1 à 3 policiers noirs au sein du SPVQ en 2022. Mais nous ne sommes jamais à l'abri que ceux-ci quittent pour Montréal. Et il a aussi ajouté, toujours aussi candidement, « Nous avons déjà eu un policier noir à Québec dans les années 90 pendant un été. » Donc, pour une réflexion plus profonde sur le SPVQ, je vous invite à lire l'article de Pivot qui s'intitule « Les élus de la ville de Québec et l'ignorance blanche ». Suite à toutes ces arrestations violentes, il y a eu un comité, un genre de plénière, composé de représentants du SPVQ 100% blanc et représentants du conseil municipal 100% blanc, qui se sont réunis pour nier les expériences des personnes non-blanches en leur absence. Donc, c'était un petit peu malaisant.
Mm-hmm.
L'article nous raconte aussi que plutôt que d'affronter les questions du profilage et de la violence policière envers les minorités pendant ce genre de plénière, ça s'est plutôt transformé en séance de remerciement, d'encensement ou de lichage du SPVQ. Je redonne le titre de l'article « Les élus de la ville de Québec et l'ignorance blanche ». On lâche un peu la police. Il y a un an, le groupe d'action contre le racisme proposait 25 actions au gouvernement du Québec qui s'était donné 5 ans pour les mettre en œuvre. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour l'instant, le gouvernement se félicite de quelques réalisations. Certaines, par contre, sont plutôt cosmétiques. Par exemple, on devait nommer un ministre responsable de la lutte contre le racisme. On a eu droit à un demi-ministre, Benoît Charrette, puisqu'il est aussi demi-ministre de l'Environnement. Donc, il se partage avec lui-même les deux portefeuilles, qui en dit long sur les priorités de la CAQ.
Oui, tout à fait. Oui.
Autre mesure, réalisation, il y a eu des investissements pour créer des équipes mixtes police-travailleurs sociaux. Donc, pour l'instant, on est au stade des projets pilotes, dont un à Longueuil. On n'a pas choisi Repentigny au Québec.
Non.
Élément, plus de la moitié des CA, des sociétés d'État québécoises, ont maintenant un membre issu d'une minorité visible. Donc, on est encore très loin.
Ouh.
ça change tout. On est encore très loin d'une représentation juste de la population québécoise, mais compte tenu que depuis toujours c'était blanc, 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 ben c'est quand même un petit pas dans la bonne direction. Autre élément, le gouvernement se félicite d'avoir intégré la notion de racisme dans le nouveau cours de citoyenneté québécoise, cours qui remplace éthique et culture religieuse, qui était dénoncé par tout le gratin identitaire du Québec.
Ben oui.
Donc, je sais pas quoi dire. Bravo. On sait même pas comment la notion de racisme sera abordée. Donc, peut-être une petite vidéo de sensibilisation.
Série de pubs.
Ben voilà, on pourrait passer justement ces pubs, là, genre quatre noirs qui mangent de la tourtière dans un parc, c'est une veillée québécoise. D'ailleurs, cette campagne bizarre répondait aussi à une des 25 recommandations du groupe d'action contre le racisme. Alors, on peut cocher une case de plus. Comme je disais, il reste beaucoup de travail à faire. On veut éventuellement interdire les interpellations aléatoires, donc soit appréhender une personne sur la seule base de son ethnicité. On attend de voir comment ça va se concrétiser. Donc, ils peuvent peut-être aller voir des exemples qui existent ailleurs, dont la Nouvelle-Écosse, qui a légiféré là-dessus, ça fait quelques années. Ouais, j'ai aucune idée comment ça se passe, honnêtement.
Faudrait fouiller,
Faudrait faire une mise à jour là-dessus. Maintenant, du un peu plus concret, il y a une enveloppe de 21 millions sur 5 ans qui a été octroyée à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour qu'elle embauche du personnel pour traiter plus rapidement les plaintes sur la discrimination au logement. C'est niché, mais c'est quand même très important.
C'est important,
Pour le reste des actions, par exemple, avoir une fonction publique représentative de la population québécoise, ouvrir le monde de la construction aux communautés culturelles, des formations continues sur le racisme, il y en a plein d'autres, on en est encore pas mal au stade de la réflexion. C'était la présentation du budget provincial 2022-2023. Cette semaine, j'ai fait mes recherches avec le mot-clé racisme dans tous les documents du budget qui sont disponibles, j'ai rien trouvé du tout. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on va prétexter peut-être la sortie de la pandémie, la reprise économique ou l'inflation pour tabletter le reste des recommandations. À moins qu'il y ait des sommes prévues dans des enveloppes qui n'ont pas encore été bien expliquées ou détaillées. Donc, à suivre. Dernier dossier pour finir ma chronique sur le racisme au Québec avec une question quiz. Marie Mathieu, on s'était parlé en réunion des sujets dont je parlais. Qu'est-ce qui a pris 4 ans à se régler? CLSC,
Montréal-Nord.
Donc, histoire d'une bénéficiaire ultra-raciste qui recevait des soins à domicile par des préposés ou des infirmières qui étaient parfois des personnes noires et qui se faisait accueillir par des insultes racistes, des objets lancés sur eux et elles, parfois des coups. Mais ça fait 4 ans que les employés et leur syndicat interpellent les patrons, qui sont le CLSC de Montréal-Nord et le CIUS du nord de l'île de Montréal, pour que la situation se règle, mais à part quelques mesurettes insignifiantes, on continue d'envoyer des employés racisés affronter seuls le monstre chez elles. Ils en reviennent avec des séquelles, évidemment. On apprenait la semaine dernière que grâce à la médiatisation de cette situation-là, le dossier a finalement été classé. Donc, de ce que j'ai compris, on n'envoie plus de personnel racisé chez cette malcommode. Ça règle pas 100% le problème, mais l'essentiel, c'est que les pauvres employés du CLSC seront plus exposés à cette violence-là. Je sais qu'on s'en va en musique, Mathieu, mais je me permets peut-être un petit Zemmour...
rapide.
Je pense pas qu'il a été condamné pour celle-là. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Je sais qu'on n'écoute pas de rap. Là, mais...
Merci, Simon. Écoute, t'es vraiment accro, donc à la campagne française.
Attendez de voir, là, c'est dans 2 semaines.
Ouais, ça va être beau. Ça va être un délire et un déluge de citations. Donc, on va poursuivre en musique. Notre deuxième pièce de l'émission, c'est Tania Tagaq, qu'on aime bien, qu'on a déjà vu en spectacle. Sa pièce Colonizer de son album Tongues, au pluriel, sorti en janvier dernier. C'est une chanteuse de gorge et artiste multidisciplinaire Inuit du Nunavut. 6e album depuis 2005, ça fait longtemps qu'elle roule. Prix Polaris en 2014 et c'est dans le palmarès anglophone, entre guillemets, le palmarès anglophone de Choc, donc depuis quelques semaines. Donc Tania Tagaq aux Apatrides Anonymes. toujours à l'émission Les Apatrides Anonymes. C'était la chanteuse Tania Tagak, la pièce Colonizer de son album Tongue, sorti récemment. C'est dans le palmarès anglophone de choc.ca que vous écoutez actuellement. On parlait de Hongrie un petit peu rapidement, puis on en parlera peut-être plus après les élections, parce que, bon, c'est dans l'actualité quand même, autant les élections, ce qui se passe en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui vise un quatrième mandat de suite, fait l'objet de critiques d'opposition pour la proximité de son gouvernement avec la Russie. Au pouvoir de manière continue depuis 2010, le premier ministre hongrois a fait de Moscou un partenaire important de la Hongrie, tant sur les questions énergétiques que stratégiques. Orban s'est engagé dans des relations très étroites avec la Russie, la Chine, la Turquie, le Brésil et les États-Unis pendant la présidence de Trump. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le premier ministre hongrois a ajusté certaines de ses positions. Hostile à l'immigration, il a permis l'accueil de centaines de milliers de réfugiés ukrainiens sur son territoire. Bien qu'entretenant des relations difficiles avec l'Union européenne, il a approuvé les sanctions de Bruxelles à l'endroit de la Russie, mais en même temps, il est en campagne électorale et il a aussi fait des déclarations en faveur de la Russie. Qui est son grand ami, comme on disait tantôt.
Son pendejo.
Oh là là. Donc, 6 partis d'opposition, dont les Verts, ont décidé de faire front commun derrière un chrétien-démocrate qui est maire de la ville de Unmezzo-Vasarely. Malgré l'unité de cette opposition qui lui reproche une dérive autoritaire marquée par l'effritement, entre autres, de l'indépendance de la justice et des médias, Orban peut toujours compter sur des atouts électoraux solides. La semaine passée, jour de la fête nationale, des dizaines de milliers de ses partisans venus des quatre coins du pays ont défilé dans les rues de Budapest à l'invitation du premier ministre qui s'est adressé à eux dans un discours devant le Parlement. L'opposition a fait aussi une manif l'autre côté du Danube, aussi en même temps. Selon un sondage récent, 42% des Hongrois souhaitent un changement de gouvernement, tandis que 39% sont favorables au maintien du Fidesz, son parti.
Quand même, hein?
Cependant, seuls 31% des sondés voteraient pour l'opposition qui s'appelle l'Alliance pour la Hongrie, les 6 partis qui se sont mis ensemble, contre 33% pour le Fidesz, et les élections législatives sont le 3 avril, mesdames et messieurs. Donc, voilà pour l'instant. J'aurais aimé ça vous parler d'un article où on parle de toutes les mesures qu'il a mis en branle pour gagner ces élections, dont baisser les impôts, geler le prix du gaz, du carburant, baisser le prix du poulet. En tout cas, c'est vraiment du plessisme à sa plus belle expression, mais je vous en parlerai peut-être après les élections si ça marche.
Des frigidaires.
Et là, là, oui, quasiment. Donc, Marie-Ève, écoute, dans la même région, dans la même logique un peu, tu nous parles des réfugiés, entre autres.
Oui, ben c'est ça.
L'Ukraine.
Simon avait fait quand même un survol des flux migratoires là lors de notre émission il y a 2 semaines. Je vais juste commencer par vous donner les derniers chiffres qui sont sortis en début de semaine. Les chiffres de l'ONU. 10 millions de personnes qui ont fui leur foyer. Ça, c'est plus d'un quart de la population. Donc 10 millions de personnes, mais donc plus de 3 millions ont quitté le pays. Donc ça commence à faire beaucoup.
Ben oui.
Si la plupart de ces réfugiés-là sont accueillis à bras ouverts par les pays voisins et ceux de l'Union européenne, cette belle solidarité-là semble se fissurer plutôt facilement devant des Ukrainiens noirs. La situation est particulièrement critique à la frontière avec la Pologne, où on semble être devant une espèce de mentalité du type « les Ukrainiens d'abord, lire blanc de souche ».
Bien sûr.
Tant de la part là, de fonctionnaires que de gardes frontières ou des militaires. Donc, bien souvent, on ferme la frontière aux personnes noires qui sont aussi victimes de discrimination dans les transports pour fuir, genre forcées à céder leur siège, dans la distribution de biens de première nécessité, l'attribution de logements temporaires, des choses comme ça. Selon des témoignages et certaines vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, des Africains auraient aussi été violentés et même braqués, armes à la main, par les forces polonaises. Le blocage de la frontière polonaise pour les Africains, bon, est quand même pas total, là, parce que certains groupes ont pu passer, ce qui suggère donc plutôt que un filtrage arbitraire des gardes frontières locaux. Mais bon, arbitraire ou pas, on s'en forgera pas dans de la sémantique, là. C'est pas plus acceptable de toute façon. Faut savoir que l'Ukraine compte 76 500 étudiants étrangers, dont 20% proviennent d'Afrique. Les ambassades africaines ont été vivement critiquées pour pas avoir prévu de plan d'évacuation de leurs ressortissants. Par exemple, il y a un étudiant nigérian en médecine qui a expliqué aux médias irlandais Irish Times que les étudiants britanniques avec lesquels il avait étudié avaient été amenés en bus russes à la frontière polonaise par les autorités universitaires, alors que les Africains qui sont, eux, sont restés sur place. Donc, face aux critiques, bon, là, il y a finalement plusieurs pays africains qui ont fini par réagir et ont depuis commencé là à organiser le rapatriement de leurs ressortissants. Reste que pour les personnes concernées, ces refoulements arbitraires là, ça ressemble à une double peine si on veut, parce que ils sont renvoyés au statut de migrants économiques. C'est comme une douche froide pour ces jeunes là qui sont venus faire des études avancées avec des papiers en règle, puis avec, on le dit, faut le dire, là, des nouvelles perspectives d'emploi. Ces accusations-là de racisme et de profilage racial aux frontières ont été, on s'y attend, là, rejetées en bloc par l'ambassadrice de Pologne au Nigeria. Oui. Selon elle, non seulement tout le monde reçoit un traitement égal, mais les documents d'identité invalides sont même acceptés pour franchir la frontière et les restrictions liées à la COVID ont été levées.
Elle est au Nigeria, ouais. Elle est au courant de ce qui se passe en Pologne, c'est sûr.
Ouais.
Ouais, c'est sûr.
Faut dire que tout ça, c'est pas très surprenant quand même quand même les médias font une distinction entre les réfugiés. Par exemple, Charlie D'Agata, qui est correspondant à l'étranger pour la chaîne CBS, a dit ceci dans un reportage, j'ouvre les guillemets, ce n'est pas un endroit, avec tout le respect que je vous dois, comme l'Irak ou l'Afghanistan. C'est un pays relativement civilisé, un pays relativement européen, où vous ne vous attendez pas à voir ce qui se passe actuellement. Je ferme les guillemets. Mm-hmm. Le journaliste a dû s'excuser quelques jours plus tard à la suite de réactions outrées sur les médias sociaux. Mais on a aussi entendu sur la chaîne arabe Al Jazeera, je cite encore, « Regardez comment ces réfugiés sont habillés. Ils font partie de la classe moyenne. » Ou encore ce député géorgien et ukrainien sur la BBC. C'est assez dur pour moi parce que j'ai vu des personnes européennes avec des yeux bleus, des cheveux blonds et aussi des enfants tués chaque jour à cause des missiles de Poutine. Et en France, les interventions de personnalités politiques ou médiatiques font aussi bondir. Décidément, on est dans les citations aujourd'hui.
Pas Zemmour, là.
Non. Par exemple, Jean-Christophe Barbier, qui est éditorialiste à BFM TV, parlait d'Européens de culture en désignant les réfugiés ukrainiens qu'il faut accueillir dans les pays de l'Union européenne, en ajoutant « Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. » Non. Et son confrère Ulysse Gosset, qui est lui éditorialiste en politique étrangère, a déclaré « On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan. Vous imaginez? »
Oui. Dans un pays, oui, barbare. Hein?
Voilà. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on nous dit qui mérite la guerre, les missiles, et qui a l'air d'un bon réfugié ou pas. Pour la journaliste italienne Sara Creta, ce vocabulaire-là induit les téléspectateurs en erreur et décontextualise les conflits. Mm-hmm. Puis en plus, il faut ajouter à ça l'utilisation différenciée des termes réfugiés et migrants. Par exemple, on utilise largement le terme migrant pour parler des Afghans qui fuyaient ou qui fuient d'ailleurs encore leur pays, tandis que les Ukrainiens, eux, sont identifiés comme des réfugiés. Sauf que selon la Convention de Genève, le terme « réfugié » désigne tous les individus qui fuient les conflits armés ou les persécutions, comme en Ukraine, mais comme en Afghanistan aussi.
C'est des déplacés, dans le fond.
Ben, c'est ça. Ouais. Puis cette différence-là de traitement a aussi été observée. Tu y faisais référence tantôt, Mathieu, tu vas voir, c'est que a été observé aux frontières de l'Union européenne lors de la crise avec la Biélorussie l'été dernier.
Ouais.
Confronté à un afflux inédit de personnes, principalement originaires du Moyen-Orient, la Pologne a verrouillé sa frontière en construisant un mur, en refoulant illégalement des centaines d'exilés côté biélorusse au mépris des lois internationales. Des pratiques d'ailleurs toujours en cours dans la région, ouais. Alors qu'un peu plus au sud, on accueille les Ukrainiens blancs à bras ouverts par les autorités polonaises. Et c'est la même, tu parlais de Viktor Orban, c'est la même logique avec la Hongrie de Viktor Orban, qui est connu pour ses politiques anti-migrants. Ouais. Puis c'est la même logique aussi, tu sais.
Non, tout à fait. Puis l'Union européenne est d'accord avec tout ça, ouais.
N'est-ce pas?
La Commission européenne?
Ben
donc,
oui.
Voilà.
C'est drôle, tantôt, tu parlais de tirs de missiles qu'on verrait normalement plus en Irak, tout ça, mais ces tirs de missiles-là, ils viennent de puissances occidentales. C'est des missiles qui sont fabriqués appliqué par les Occidentaux. Ça fait que je trouve ça un peu bizarre comme.
Ceux en Irak aussi, d'ailleurs.
Ben oui.
Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci, Simon. Je vais tranquillement finir l'animation avec une intro. Donc, quelques notes de musique, Simon. Les gens de la région de Montréal, deux dates, ça vous intéresse? Ben là, on est en direct le 24 mars, demain le 25 à 14h au Mont-Royal, journée mondiale pour la justice climatique. Ça se passe dans plusieurs villes au Canada, mais à Montréal, ça a été intitulé Solidarité avec les premiers peuples, organisé par la CEVES pour le futur Montréal, Extinction, Rébellion. Donc, à l'occasion de la grève mondiale pour le climat appelée Fridays for Future, qui continue toujours, c'est pas nouveau, plusieurs organismes et groupes militants autochtones et allochtones se sont alliés afin d'offrir un teen chain de masse sur la décolonisation et les luttes pour les souverainetés autochtones. Donc, demain, sur l'avenue du Parc, au Parc du Mont-Royal. Et on va parler des luttes, entre autres, des coupes, les luttes contre les coupes forestières abusives sur le Nitassinan, lutte contre la mine Black Rock, résistance au projet de mine d'apatite Ariane Phosphate au Lac-Apol, la mobilisation anti-Québec contre la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, les coupes forestières, lutte contre les vols de territoire et le racisme environnemental à Kensatake, lutte pour un moratoire sur la chasse à l'orignal dans le parc de la Vérendrye. Donc, c'est un gros teach-in demain après-midi pour la journée mondiale, pardon, pour la justice climatique, et j'imagine qu'il y a des activités dans d'autres villes au Canada et un petit peu partout. Et l'autre truc, ben encore une fois, le logement qui n'a pas grand-chose dans le budget du Québec ce mardi. Donc, notre manif nationale du Frappru le 2 avril à 13h30 au métro Place d'Armes à Montréal. Le thème, c'est une politique globale et des investissements pour régler les crises du logement au Québec, parce que c'est partout au Québec et au Canada aussi, on en parle beaucoup. Donc, le 2 avril, le Frappru, toujours logement, parce qu'il y a vraiment des très, très, très gros problèmes.
Oui, plusieurs reportages qu'on entend qui parlent des hôtels réquisitionnés ou motels réquisitionnés, parce que les gens sont plus capables de se loger.
Ah, au Nouveau-Brunswick, entre autres.
Puis de plus en plus partout, ouais, là, dans des endroits Ontario, où il n'y a jamais une crise de logement avant. Là.
Partout au Québec, oui, tout à fait. Donc, ça continue la lutte pour ça au Québec et ailleurs. Ouais. Donc, ça fait un peu le tour de l'émission aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie-Ève.
Ça me fait plaisir.
Merci à Simon.
Ça me fait plaisir aussi.
Ça fait plaisir. C'était une bonne émission, plein de contenu. Pour nous rejoindre, on a une page Facebook où on met toutes sortes d'articles, FB, pardon, où est-ce qu'on met toutes sortes d'articles
d'actualité. Faut pas dire ce mot-là, d'actualité. C'est comme dire Voldemort.
OK.
Facebook.
OK, donc dire LCN, genre. on a une page où est-ce qu'on met toutes sortes d'actualités presque tous les jours. Ça vous tente de nous suivre sur les sujets dont on parle à l'émission ou pas, parce qu'en deux semaines, on n'a pas le temps de parler de tout. Notre site internet, apatridesanonymes.info, où vous trouvez toutes les émissions aussi et d'autres informations. Notre page sur le site de choc.ca. Mm. Et notre courriel, c'est apatridesanonymes@resist.ca. On va se revoir dans deux semaines, le 7 avril, 18h30, 2022. Et on rappelle qu'on est aussi diffusé sur les ondes de Radio Victoria.
Encore la seule radio francophone communautaire.
De la Colombie-Britannique. Et c'est sur le FM, donc ça vous tente.
Deux fois par semaine.
Deux fois par semaine, on a plein de reprises, donc c'est super le fun.
Est-ce qu'on sait si on la capte à Vancouver?
Aucune idée, Simon. Je ne suis pas allé à Vancouver dans les dernières semaines.
Okay. Moi non plus.
Donc, on va terminer en musique, évidemment, parce qu'on on aime ça terminer avec une pièce longue, le temps de vous laisser digérer tout ce qu'on a, tout ce dont on vous a parlé, et d'écouter de la très bonne musique instrumentale en général. Donc, c'est le saxophoniste de Los Angeles, David Benny, qui a lancé A Glimpse of the Eternal, son 10e album sur l'étiquette Crisscross en janvier dernier. Il est accompagné du pianiste Craig Taborn, qui est très connu, du contrebassiste Ilvin Opsvik et du batteur Dan Vies. Et c'est son, donc, 10e album. Quand même, c'est un super bon saxo.
C'est
du jazz. La pièce s'appelle Nightfall. Hein?
La tombée de la
nuit. Il est
quelle
heure? Le 19h30?
Ouais,
et en ce moment, il y a une...
De circonstances.
Oui, il y a une manif de soir en ce moment aussi dans les rues de Montréal, manif étudiante.
Ça va moins ensemble. Ça.
OK, ben il est 19h30 en direct. Donc,
ça manque de casserole.
Mais le jazz, ça peut bûcher. Donc,
oui,
on se laisse avec David Benny Quartet. Donc, bonne fin de soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et à dans deux semaines aux Apatrides.
Anonymes.
Yeah.
Bonne soirée.
Bye.